Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. On va coller en plein dans l'actualité ce soir, 115e émission qui va être consacrée eh bien, au football américain, au lendemain de la finale du Super Bowl. Donc on va avoir des invités qui, j'allais dire comme chaque année, vont perpétuer la tradition. On parlera aussi également MMA dans la deuxième partie de cette émission. Et puis on aura notre ami donc Stéphane Desenclos pour le Point Foot comme chaque semaine. Je vais saluer Vanessa, ça va Vanessa?
Très bien.
T'as passé une belle semaine?
Une très belle semaine, ouais. Et puis voilà. Après ce meeting indoor,
oui.
Hier,
oui.
C'était magnifique.
Mais on en reparlera plus longuement la semaine prochaine.
Exactement. Hein. Voilà.
Et puis on va saluer Alexandre, parce qu'il est à Faune, il peut pas travailler ce soir. Donc, mais je sais qu'il a quand même préparé le journal des sports en coulisses. C'est bien la technologie.
Merci Alex.
C'est bien maintenant, hein, la technologie moderne. Hein. C'est fabuleux. Ça n'a pas que des avantages, mais ça en a aussi. Alors, nos invités ce soir, c'est une fidèle, une habituée, Tania. Bonsoir Tania.
Bonsoir Philippe. Oui.
Responsable de com, c'est ça?
Responsable communication à la Ligue francilienne de football américain.
D'accord.
De France.
Ouais, ouais. Alors on se connaît, vous étiez déjà venu à nos émissions parce que vous avez aussi une plateforme.
Oui, j'ai une plateforme. Oui. Ben, en fait, je fais la
qui
promotion
du foot
américain,
qui nous
qui
prend en direct.
Ouais. Voilà, pour YouTube, Tania TL7 Sport Events, et sur Instagram TL7 Events Paris. Je fais pas mal de photos. Et je tourne dans toute l'île de France pour faire la promotion du foot US.
Très bien. Et puis, on a un manager, donc Duncan Thirier, manager des Mousquetaires, c'est ça, de Châtenay-Malabry.
C'est ça. En fait,
bonsoir, Duncan.
Bonsoir et merci de votre invitation.
Non, mais c'est un plaisir parce que, pour tout vous dire, on a appelé beaucoup de clubs. Et certains, la plupart, ont dit non, on n'est pas dispo. Hein. Il y en a quand même envoyé des réponses bien après. Bon, ce sont donc excusez, c'est le club de amis de la Courneuve. Il y en a d'autres qui n'ont pas voulu, comme Fontenay-sous-Bois, et puis d'autres qui se sont très gentiment excusés, qui étaient venus régulièrement, choisir le roi. Mais cette année, ils ont des petits problèmes d'effectifs.
Hein. Après, un lendemain de Super Bowl, il y a du sommeil à rattraper.
Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais, ouais, je comprends mieux. Voilà, en tout cas, merci d'avoir été très réactif. Tania, d'abord, pourquoi cette passion pour le Super Bowl? Et pour le foot US?
Un match des Eagles.
C'est tout?
Oui, c'est déjà pas mal. Quand vous voyez des gars qui se battent, qui mettent leur trip sur le sol avec 2 mètres de neige, enfin j'exagère en disant 2 mètres, et qui en veulent, quoi, qui veulent avancer, c'est ça la vie.
Ouais,
la vie, c'est avancer, c'est progresser,
c'est
performer.
Vrai, c'est vrai.
Le foot US, c'est un sport, je n'en connais pas d'autres, qui accepte tous les gabarits. Vous pouvez être gros, grand, petit, maigre.
Oui, contrairement aux idées reçues.
Voilà, vous avez une place partout.
Ouais.
Vous passez 110 kilos, mais... vous êtes le protecteur de la patrie, c'est vous qui protégez le QB par exemple.
D'accord, mais c'est bien, c'est ça.
Vous êtes petit, vous pouvez être run, vous êtes rapide, vous êtes efficace.
Ouais, mais c'est ça qui est intéressant.
Pas la même chose,
on va en parler
mais
parce que
voilà.
Contrairement aux idées reçues, on croit que c'est pour des gros mastodontes, voilà, puis qu'on donne. C'est pour
on
ça qu'on
a des
fait
joueurs
cette
de 50 kilos et des joueurs de 150 kilos. Hein, c'est,
D'accord, Duncan, je suppose que vous abondez dans ce sens. Pourquoi
oui,
vous, le foot US, ça arrivait comment?
Le foot US, moi j'ai découvert ça, j'avais 10 ans.
Ouais.
En grâce à un jeu vidéo qui s'appelle Madden. Donc j'ai joué à ce jeu et l'année d'après, je suis parti m'inscrire directement au club le plus proche de chez moi.
Et c'était donc déjà
c'était
à l'époque
Alors c'était pas le même nom, mais c'était le même club.
Ouais, oui.
C'était les Sphinx du Plessis Robinson à l'époque.
Oui.
Et depuis, ça m'a jamais quitté. Et oui, c'est ce que j'aime aussi dans le foot US, comme ce que disait Tania, en fait, c'est qu'on accepte tout le monde. En fait, le but, c'est que chacun vienne et donne le meilleur de soi-même. Le meilleur de ce qu'il a, le meilleur de ce qu'il peut proposer. Donc, quelqu'un qui est costaud, il va donner sa force. Quelqu'un qui est maigre, il va donner de sa vitesse. Chacun apporte ce qu'il peut apporter. Et puis, on forme un collectif autour de tout ça.
Mais vous avez quand même une chance, parce que des clubs de foot US, il n'y en a pas énormément partout. Hein. On parlait justement des clubs qui devaient venir, qui n'ont pas pu venir, parce qu'il manque de représentants. Hein. Fontenay-sous-Bois, la Courneuve, et puis Choisy-le-Roi cette année. Mais il y en a qui vont très loin pour faire du foot US.
En Ile-de-France, on est quand même assez
bien
lotis.
Oui.
Hein.
Oui,
il y en a pas mal en
Ile-de-France. En région, ça peut être plus compliqué, mais en Ile-de-France, oui, il y en a dans tous les départements, au moins 2.
Ah oui
si la LFFA, elle est quand même la plus grande ligue de France.
D'accord. Alors, d'abord, vous, dans les Hauts-de-Seine, je crois qu'en préparant un petit peu l'émission, c'est un club qui a fusionné quand même. Hein.
Les Mousquetaires ?
Oui.
Oui, les Mousquetaires, en fait, c'est le résultat de plusieurs fusions. Hein. Oui. C'est un des clubs les plus anciens.
J'ai même vu que ça avait commencé avec une entité de Paris.
Oui, c'était les Castors de Paris à l'époque, qui ont fusionné avec les Sphinx Duplay-sur-Aubinson pour s'appeler les Castors Sphinx. Et ensuite, deux ans après, on s'est dit, bon, on va changer le nom peut-être, et on s'est appelé les Mousquetaires, parce qu'au Plessis-Robinson, il y a la tombe de D'Artagnan.
Ah, ah ouais, voilà,
d'accord,
un peu d'histoire.
Ouais, d'accord. Bon, c'est un coin sympa. En plus, c'est vrai que Château Malabry, on connaît bien, on y va souvent avec le Krebs.
Ouais. Hein. Ouais, donc, c'est un coin très sympa.
Ouais, vous êtes à côté, il paraît. Hein.
Bah, on est juste en face du Krebs, sur le complexe sportif Jean Longuet.
Alors justement, comment on arrive à avoir des terrains? Parce que est-ce qu'on joue sur des terrains de foot, des terrains de rugby? Est-ce qu'on a ses propres locaux?
Alors c'est très très compliqué.
Eh bah oui.
Donc en général, on va jouer sur des terrains de rugby. Mais trouver des créneaux, clairement, c'est le gros problème. Nous, on sait ce que c'est aux Mousquetaires, parce qu'on a réussi à faire tenir le club une dizaine d'années sans avoir de terrain. On était au Plessis-Robinson et les infrastructures ont été vendues au Racing Métro.
Ah oui.
Donc
ah
on s'est retrouvé sans terrain.
Alors comment vous avez fait ?
Eh ben en fait on jouait les matchs à l'extérieur, on s'entraînait dans des parcs. On n'a pas laissé tomber.
Alors c'est comme ça que les clubs s'en vont puis s'arrêtent, disparaissent. Quand on disait que ces clubs ont du mal à trouver des effectifs parfois, c'est la difficulté quoi.
Mais en général voilà, un terrain de rugby ça nous suffit. On n'est pas très demandeur. Hein. Un terrain de rugby ça nous va. On le trace nous-mêmes. On fait
oui, mais après, le problème, il faut aménager les calendriers. Il faut voir en fonction de l'autre sport.
Oui, c'est ça.
Ah, et puis, non, les terrains, excusez-moi, les terrains, quand vous avez un match, vous êtes en D1, vous avez des on appelle ça
des terrains complètement...
Vous devez suivre un cahier des charges. Ça veut dire que, par exemple, en D1, si vous n'avez pas le terrain avec tant de yards, si vous n'avez pas les poteaux de dame placés à tel endroit, etc., si le terrain est mal tracé, ça ne fonctionne pas.
D'accord.
Donc on est tributaire de tout ça. Quoi. On est tributaire de...
Donc ça, c'est un des problèmes pour votre sport.
Bien sûr. Parce que tout le monde n'a pas le terrain disponible quand ils veulent. Et même pour commencer la saison, certains ne peuvent pas la commencer en septembre parce que les mairies n'ont pas encore accepté.
Il faut dire ce qu'il y a, un football américain en France, on est la dernière roue du carrosse.
Oui, c'est un sport confidentiel, il faut le dire en France. Hein. C'est pas, j'allais dire, dans notre culture. Quoi. Mm-hmm. Hein. Bon. Mais vous arrivez quand même à vous passionner, quand même. Bon, vous jouez, mais autrement, à suivre l'actualité du foot US.
Ah bah oui, bien sûr, bien sûr, ça
va ensemble. Non, mais c'est pas évident, il n'y a pas beaucoup de matchs de diffuser.
Alors si, il y en a beaucoup.
Ouais,
hein.
Sur des chaînes,
il y a toute la NFL qu'on peut suivre.
Sur quelle chaîne ?
Sur, alors là, c'est plutôt sur, je sais pas si on a le droit de citer ou pas, sur DAZN.
Ah oui, bah DAZN, c'est ceux qui montent le foot. Ouais.
Voilà.
C'est ceux qui montent le foot, d'accord. Ils montent aussi le
basket.
Ils montent le
foot
US. Américain.
Le basket,
ensuite, on a sur ESPN, les chaînes américaines, on peut suivre les championnats universitaires. Mm-hmm. On a la FFFA maintenant, qui depuis cette année diffuse le championnat de France D1.
D'accord, sur leur site internet.
Oui, c'est ça. Et puis, après YouTube.
Oui, et puis... Entre nous, vous êtes déjà allé voir des matchs, non ?
Des matchs en France ?
Aux US ?
Jamais.
Jamais.
C'est un de mes rêves.
Bah oui, je suppose que ça doit être un des rêves. C'est des rêves pour le basket en NBA. Je pense que sur le foot US, voilà.
Ah oui.
Aussi. Bon, vous êtes combien au club ?
Au club, en tout, on va être un peu moins de 80 cette saison.
Mmh.
Dont une cinquantaine de seniors et puis tout compris, le reste entre le staff et puis les équipes jeunes.
Oui, il y a des filles ?
Pas cette année.
On a du mal.
On essaye de recruter, de monter des sections féminines, mais c'est compliqué. Hein. Donc, ce qu'on fait en fait pour les féminines qui viennent chez nous, c'est qu'en fait, on crée des équipes mixtes de flag football.
Ah oui. On va en parler parce que ça va être sport olympique en 2028. Donc, alors justement, comment on arrive à faire jouer tout le monde ensemble et comment on arrive à composer des équipes qui s'engagent dans les différents championnats?
Alors c'est tout chaque début de saison, ça va être la grande interrogation.
Eh ben oui.
Donc on attend de voir ce qu'on a comme personnel pour chaque section, chaque discipline. Et puis en fonction, on a des critères aux Mousquetaires. Il faut un nombre minimum de licenciés par section pour qu'on s'engage sur un championnat. Parce que c'est vrai que si on s'engage, mais qu'au final...
Qu'on abandonne, qu'on arrête.
Déjà, c'est pas terrible. Et puis en plus, des fois, il y a des sanctions financières qui sont pas très sympas.
Et vous, alors, ça se passe comment ?
Bah nous, cette année, on est engagé en senior football américain. Mmh. Et à côté de ça, on développe nos sections jeunes, ouais. Donc U17, U20, mmh. en garçons uniquement. D'accord. Et on fait aussi du flag, mais là, vraiment ouais. en loisir.
Ouais. Mais eux peuvent faire des compétitions, vos jeunes, là, en U?
Alors, mmh. cette année, on ne les a pas engagés parce que, bah, en fait, on n'en ouais. avait pas assez. Donc, ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on organise des plateaux avec d'autres équipes qui en ont de bonnes relations. Et puis, on les fait jouer ensemble, faire des entraînements communs. On essaie de leur trouver des activités, des tournois. Ouais. On les fait basculer aussi sur le flag pour ce qu'ils découvrent ouais. un peu plusieurs mmh. choses.
Mais est-ce que ce n'est pas frustrant pour un jeune? Est-ce qu'au bout d'un moment...
Bah, si, ça
parce
peut,
que
ça peut
c'est
être
l'adrénaline de la compétition qu'on veut quand même
exactement.
À un moment. Eh oui.
Mm-hmm. Bah après, c'est toute la difficulté du foot américain. Il y a 4 ans, on avait 60 jeunes. Mm-hmm. On était champion Île-de-France en catégorie jeune. Le Covid, jeunes, on a perdu tout. Donc à chaque ah fois, oui. il faut reconstruire à partir de zéro. Ouais, c'est vraiment beaucoup de boulot de communication, mm-hmm. De faire connaître ces... Oui. C'est une grosse partie du boulot.
Bon, Tania, oui. Vous qui êtes donc à la ligne d'Île-de-France, combien de clubs alors?
Alors, il y a 3 nouveaux clubs qui sont ouverts cette année par rapport à l'année dernière. Je ne sais pas le nombre exact. Mm-hmm. Mais c'est toujours aussi compliqué de monter des équipes. Là, il y avait les équipes Saphir qui vont s'arrêter cette année, par exemple.
Saphir, c'est quoi?
Saphir, c'est un espèce de tournoi où il n'y a que des joueurs qui jouent. C'est du jeu à 11.
D'accord. Ok. Mais bon, on parlait des départements, donc...
Franchement, en Île-de-France, il y a pas oui. mal de clubs. Après, c'est dans les effectifs que ça pêche. Mmh. En fait, en début d'année, on est tributaire du nombre de joueurs qui arrivent. Si vous n'avez pas de ligne, vous ne pouvez pas jouer à 11.
Oui,
vous êtes obligé de jouer
sûr.
À 9.
Bien sûr.
Sachant
oui,
qu'on
oui,
s'amuse
oui.
plus à 11, mais des fois, les clubs n'ont mmh. pas le choix. Ils sont obligés de jouer à 9, voire à 7 en U17.
Mmh. Alors, le club le plus important, c'est nos amis de la Courneuve, non?
Ben,
ceux qui
ne
viennent pas quand les... et qui répondent pas aux mails.
Non, c'est vraiment...
Non, mais
oui,
vous pouvez leur dire. Hein.
Ah ouais. Non, moi, je suis allée sur leur sideline pour les... Ben parce que je suis infirmière
j'ai
voulu faire rentrer justement dans le fait que le sport, c'est un sport un peu dangereux quand même. Et il y a toujours un médecin sur les sidelines pour rassurer aussi les parents, les familles. Si vos enfants font du football américain, il y a quand même maintenant, de nos jours, des protections qu'il n'y avait pas il y a pas mal d'années. Il y a des casques, il y a 7 pads de protection. Voilà, maintenant, les gens peuvent être strappés, ils sont surveillés. Il ne faut pas hésiter à inscrire les enfants au football américain. Et moi, je trouve que le flag, ce n'est pas forcément frustrant parce que justement, tout le monde n'est pas fait pour le football américain. Mmh. On n'est pas né pour se prendre des coups dans la tête, pour
c'est
encaisser.
Sûr.
Pour
c'est,
ses... c'est un choix de vie et ça dépend de ce que vous vivez à ce moment-là. Si vous n'êtes pas fait pour le football américain, faites du flag.
Mmh. Alors, on va en parler justement. On va le présenter, le flag, très brièvement. On va dire ce que c'est. En rappelant, je l'ai dit, que ça sera discipline olympique. Donc,
À
Los Angeles. On va attribuer des médailles olympiques. Bon, peut-être qu'une seule fois, on verra après. Peut-être qu'à Melbourne, ils le supprimeront. Mais enfin, bon, pour l'instant, il y aura quand même un titre olympique de décerné en 2028.
Oui, bah, le flag football, en fait, très simplement, c'est du football américain, mais sans plaquage. En fait, les joueurs ont tous une ceinture avec 2 petits drapeaux qui pendouillent. Et pour plaquer, il faut arracher un drapeau.
D'accord.
Voilà.
Okay.
Sinon, en termes de règles, c'est quasiment la même chose, mm-hmm. hein, par mm-hmm. 2-3 petites spécificités. Ouais. Sinon, c'est identique.
Alors, on va rappeler justement les règles du foot US, parce que les gens ne les connaissent peut-être pas. Donc, on va rappeler les règles de ce sport. D'abord, vous jouez à 11, hein.
Voilà, c'est 11 contre 11.
Voilà. Alors, à quel poste? Parce que des fois, on entend... ça me rappelle le film de Stan Hoffman, là. Rain Man.
Oui.
Quarterback. Hein. Donc, rappelez un petit peu les postes spécifiques.
Alors, le foot américain, c'est un sport de gagne-terrain.
Oui.
Donc, c'est un sport qui va être très haché. Mm-hmm. Et donc, quand une équipe attaque, l'autre équipe va défendre. Mm-hmm. Donc, il y a déjà, dans chaque équipe, il y a une équipe d'attaque et une équipe spécialisée dans la défense. Donc en attaque, on va avoir, on va dire, la colonne vertébrale de l'équipe, ça va être la ligne offensive. Mm-hmm. Donc là, c'est ceux qui sont chargés soit de protéger le quarterback pour lui laisser le temps de lancer le ballon à un receveur, soit de, on va dire, creuser mm-hmm. des brèches dans la défense.
Ils appellent comment ces joueurs?
Les joueurs de ligne offensive, les O-line.
Les O-line.
Ah oui, voilà, c'est ça. Parce que c'est un sport américain quand même. Donc, ouais. D'accord, ok. Après ?
Après, donc, on a le quarterback, le chef d'orchestre.
Oui, c'est
le
numéro 10 du foot, quoi.
Oui, c'est ça. C'est lui qui va distribuer le jeu.
Ou c'est le pivot du basket. Ou de... Voilà, c'est ça. Ouais.
Et donc, le quarterback va donner le ballon soit au running back, qui lui va courir avec le ballon en essayant de trouver des ouvertures, soit lancer le ballon à un receveur pour gagner plus de terrain en une fois.
D'accord.
Okay. Et tout à l'heure, vous parliez des drapeaux à attraper. Ces drapeaux, ils représentent quelque chose ou
Alors, non, ça, c'est pour le flag.
Oui, c'est pour le flag, c'est pas pour le foot américain. Hein.
Arracher le drapeau, c'est équivalent à plaquer le joueur.
Oui,
non, ce que je voulais dire, c'était ce drapeau. Est-ce que sur ce drapeau, c'est un drapeau qui est à l'image de quelque chose ou c'est juste un drapeau
Ça peut être à l'image de quelque chose, mais en général, non, il n'y a pas...
D'accord.
Un drapeau blanc, celui de la paix, c'est ça, non?
Non, ça m'intriguait parce que ça...
Donc, après, chaque poste est spécifique. On ne peut pas en changer, on se spécialise.
Si, on peut en changer, surtout en France. Hein, par exemple, chez nous, les jeunes.
Mais quand on est jeune,
on leur fait tester
permuter,
beaucoup de postes. On les fait essayer plein de postes différents. Après, il y a un état d'esprit aussi à avoir.
Voilà.
Un joueur, quelqu'un qui joue en défense, c'est quelqu'un qui, en général, aime mettre des coups et plaquer les autres. Un joueur qui va jouer en attaque, c'est quelqu'un qui aime briller et qui veut aller marquer. Voilà, donc il y a déjà un état d'esprit, mais après, le but c'est que les jeunes on leur fasse essayer plein de choses parce que c'est vrai que souvent, quand des jeunes arrivent en début de saison, on a 90% des joueurs qui veulent être soit receveur, soit quarterback, soit running back. Voilà.
Ouais, après, c'est comme au foot, on veut être gardien ou attaquant, quoi. Voilà,
donc après ils découvrent un peu tout et puis ils voient là où ils se développent le mieux, là où ils sont le plus à l'aise. Et, puis,
Et vous êtes coach, hein?
Oui.
Donc vous avez votre mot à dire?
Sur la position?
Oui, et puis sur la spécialisation aussi du joueur.
Ah oui, tout à fait.
Comment ça se passe?
On peut faire des déçus. Hein.
Ah ouais, c'est ça, justement.
On peut faire des déçus. Ça arrive, hein, mais après, de toute façon, en général, ils comprennent assez rapidement, effectivement, que certains postes peuvent être compliqués.
Oui, parce qu'il faut quand même leur justifier qu'effectivement, ils sont peut-être mieux à ce poste-là qu'à l'autre, tout ça. Alors, en fonction, vous l'avez dit, donc, du caractère, de la personnalité, est-ce que le physique aussi est important? Vous disiez que c'est un sport qu'on peut pratiquer quel que soit son gabarit. Alors, justement, est-ce qu'il y a des postes adaptés?
Ah oui, le physique, c'est très important, de façon générale.
À tous les postes.
Mais l'avantage, c'est qu'il y a besoin de tout type de physique. Les joueurs de ligne offensive, là, on a besoin de joueurs assez lourds, assez costauds. Qui vont être capables d'être solides sur leurs appuis. Et à l'inverse, les receveurs, on a besoin de joueurs qui soient relativement grands, assez fins, qui puissent attraper les ballons, courir vite, se démarquer.
Oui. Mais au bout d'un moment, on est bien obligé quand même de se spécialiser.
Ah bah oui, au bout d'un moment, un joueur qui va faire 1m80 pour 60 kilos, le mettre en ligne offensive... Il va de lui-même, il va comprendre que c'est pas possible.
Et justement, la réaction des parents quand ils inscrivent leurs jeunes au foot américain, parce que vous parliez, Tania, de rassurer les parents. Ça, cette image, quand j'entends dire cogner, il faut être costaud, ça peut faire peur.
Ça peut faire peur. Alors après, ce que je dis aux parents en général, c'est que leur enfant, il a un gabarit et c'est extrêmement rare qu'il se retrouve en face de quelqu'un de beaucoup plus costaud que lui. En général, les gabarits équivalents se retrouvent les uns en face des autres. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Après, oui, il faut beaucoup parler, discuter, leur montrer. En général, les parents qui viennent et qui restent aux entraînements, ils se rendent compte assez rapidement que ça va, que c'est très bien encadré, qu'il y a énormément de règles, notamment au niveau des plaquages. C'est plus comme dans les années 80 où on y allait très très bourrin. Maintenant, c'est très très réglementé, donc on fait très attention.
Oui, j'allais justement vous poser comme question, est-ce que le jeu a beaucoup changé? Est-ce que le jeu a évolué?
Oui, au niveau de la sécurité des joueurs, ça a énormément changé. Moi, disons que quand j'ai appris le football américain, mon coach m'a dit, pour plaquer ta tête, tu vises le numéro de l'autre joueur.
Ouais.
Et ça, c'est quelque chose qui est impensable aujourd'hui. On ne fait absolument plus ça. Maintenant, le plaquage avec la tête est complètement interdit. Ça vaut expulsion d'un joueur.
Vous n'avez plus cervical, en fait.
Oui. Il peut y avoir comme ça des expulsions à vie, des radiations. Dans le rugby, ça se fait.
Alors, il y a des expulsions, clairement. Pour des plaquages dangereux.
Ça rigole pas, le rugby. Donc,
ça peut arriver.
Ça peut arriver. Tania, les parents sont rassurés d'une façon générale?
Pas toujours, en général, clubs. Quand l'enfant rentre dans les clubs, il faut savoir que dans les clubs de football américain que je connais en Île-de-France, oui. ça devient des clubs un peu familiaux. Donc, c'est oui. un petit peu tous des potes, ils sont amis. Mm-hmm. Au départ, ils veulent garder cette cohésion entre eux. Mm-hmm. Et ensuite, ben, les parents, ils n'ont pas forcément toujours le choix quand leur enfant insiste en disant « Mais moi, je vais faire du foot américain, ils veulent découvrir, ils veulent... » Et là, on les rassure, on leur mm-hmm. donne les points de sécurité et puis... au niveau du coaching, comme je disais tout ouais. à l'heure, moi, les joueurs que je coach, il y a aussi une mentalité à avoir à chaque poste. Ça veut dire que si vous venez pour faire le fanfaron, il y en a, c'est un peu ça. Hein, je mets le casque, je mets les épaulières et voilà, je suis beau et tout va bien. Mais ce n'est pas suffisant. C'est un état d'esprit, le football américain. Et c'est aussi mm-hmm. une cohésion d'équipe. Il oui. Y a souvent one dans les équipes parce qu'on est censé ne former qu'un avec les autres. Vous mm-hmm. faites une erreur, c'est tout le monde qui prend. C'est mm-hmm. un sport qui est aussi un peu militaire. Donc, par exemple, le quarterback, s'il est super bon, qu'il est, comme on dit, qu'il a un bras et qu'il n'est pas coachable, ce ne sera juste pas possible parce que c'est censé être un exemple pour les autres joueurs mm-hmm. de la team. Mm-hmm. C'est, mm-hmm. Voilà, tout ce qui ouais. est O-line, qui dépasse un certain poids, ce sont des gens qui peuvent se découvrir, qui peuvent évoluer parce que ce sont eux les protecteurs du QB. Le QB, s'il n'est pas protégé, tout seul, il n'y arrive pas. Hein. Mm-hmm. C'est une team, le football américain. Ouais. Les joueurs jouent en team, ils jouent ensemble.
Ouais, oui. Et comment on gère ça, justement, peut-être sur l'aspect un peu psychologique et puis communion j'imagine que ce n'est pas évident.
C'est pas mais... simple parce que certains joueurs n'acceptent pas forcément les réprimandations
du coach
de certains.
Oula.
Et moi, quand je coach, je fais plus de psychologie qu'autre chose parce que je prends les cas un par un et je vois un petit peu comment ils réagissent pour, on va dire, être des bonhommes sur le terrain.
C'est-à-dire que vous êtes une coach qui parlait beaucoup.
Oui, mais je l'ai fait agir. Parce que j'aime pas quand ça bouge pas.
Oui, non, c'est sûr.
Mais oui, il en faut. Mais je suis infirmière aussi, donc ça rentre aussi dans le. Non, les malades, ils se lèvent et ils marchent. Non, c'est
pas
comme
ça. Il faut les faire marcher. Non, mais ça porte.
Mais là, non, il y a toute une psychologie pour. Ils doivent se connaître eux-mêmes pour pouvoir connaître leur pote et le défendre jusqu'au bout.
Ouais. Duncan, ça pose des problèmes des fois aussi. Parce que c'est vrai que c'est des psychologues aussi, c'est des psys, les entraîneurs.
Dans tous les cas, oui.
Ouais, dans tous les sports co.
Il y a le côté psychologie de groupe. Mmh. Et de psychologie individuelle. Donc, il faut réussir à jongler avec les deux. Et effectivement, chaque joueur ne se prend pas de la même façon. Il y a ceux qui vont avoir besoin d'encouragement pour se surpasser. Il y a ceux qui ont besoin de pied au cul.
La psychologie intervient. Il y en a où on n'a pas besoin de beaucoup parler. Donc, il faut au contraire les rassurer, beaucoup parler.
C'est ça, exactement. Il y en a, il faut vraiment tout expliquer de A à Z, d'aller dans le détail. Il y en a d'autres, on leur dit, lui, tu prends le ballon, tu fonces, c'est tout. Fin...
Et vis-à-vis des parents?
Vis-à-vis des parents, moi, on a pour politique de vraiment beaucoup communiquer avec les parents. On les encourage à venir et on a besoin d'eux, d'ailleurs, pour...
Pour être bénévole, pour aider.
Voilà,
exactement. Bah oui.
Donc, on les engage vraiment beaucoup sur tous les aspects organisation. Et puis, on aime bien avoir du monde au match aussi qui soit présent.
Bah, on va en parler, Mais ils ne viennent pas vous voir en disant qu'il faut que mon fils joue impérativement à ce poste-là?
Non, ça jamais. Parce qu'en fait, les parents, ils sont en général un petit peu largués.
Ils
ne
connaissent pas
trop
le foot, c'est ça.
Ouais. C'est leur enfant qui connaît bien. On a plus de problèmes avec les enfants qui disent « je veux jouer quarterback », mais...
Tania, avant de revenir encore plus particulièrement sur le jeu de l'intérieur, donc les départements importants dans ce sport, la Courneuve, donc c'est le club le plus important.
Bien sûr, bien sûr.
Oui. Les Hauts-de-Seine sont bien représentés.
Deux équipes.
Oui, deux équipes.
Il y a quand même, dans leur département, il y en a quand même deux. Il y a les Météores qui sont en train de monter quand même pas mal dans le paysage de l'Île-de-France. Mm-hmm. Ça, c'est indéniable.
Et dans le Val-de-Marne aussi.
Les Météores sont à Fontenay-sous-Bois.
Oui, bah, c'est ceux qui aussi qui ne pouvaient pas se déplacer.
Ils ont le vent en poupe en ce moment. Oui. Ça fonctionne bien pour eux.
Et ailleurs, dans les sols, la Seine-et-Marne, tout ça
Pour les autres équipes, ça se maintient. Il n'y a pas vraiment de... Après, ce sont les championnats qui déterminent l'avancée ou pas de l'équipe.
J'imagine qu'il doit falloir aller loin, faire les matchs quand même.
Mais en fait, quand vous êtes dans une poule, vous faites des matchs en déplacement et des matchs à domicile. Tout le monde n'a pas forcément les moyens de se déplacer à droite ou à gauche.
Oui, parce que s'il y a deux clubs en Seine-et-Marne, ils ne vont pas jouer à deux. Il faut bien aller dans les
Yvelines,
il faut bien aller dans les Saônes, il faut bien aller sur Paris, il faut bien aller dans le Val-de-Marne. Bon, le Val-de-Marne, c'est pas trop loin, le Seine-et-Marne.
La poule dans laquelle vous êtes, le club n'a pas forcément... C'est décidé par les autres instances, on va dire. Et vous devez vous déplacer chez vos adversaires ou ils viennent chez vous. Ça, c'est prédéterminé à l'avance. Et donc, vous devez faire rentrer dans le calendrier les dates qu'on vous a données. avec la mairie, avec les créneaux, avec tous les voilà, tout ça, c'est de l'organisation par les directeurs et directrices de club.
Et vous, quelle est votre politique de communication pour développer un petit peu mieux votre sport? Bon, venir dans les médias, comme,
voilà,
comme
dans les
ce
médias,
soir.
Être invité dans les médias, c'est aussi c'est aussi pour ça que j'ai créé ma chaîne YouTube
post-Covid,
parce que ben on pouvait pas se déplacer comme on voulait, les parents pouvaient pas voir leurs enfants venir. Et moi, j'ai des jeunes où les... qui étaient tristes que leurs parents puissent pas les voir. Avec YouTube, au moins, ils allumaient leur télé. Ils voyaient les exploits de leur, de leur, de leur jeune à la télé.
Avec Vanessa, on a rencontré une de vos collègues hier, hein, qui a un petit peu fait le même genre de... qui a aussi montré sa plateforme, même si elle, elle est plus omnisports, dirons-nous. Voilà.
Oui, tout à fait.
Ouais, on l'a rencontré. C'est cher, les prix
pour, à peu près 190 euros pour les inscriptions dans certains clubs.
Oui.
Des locations à 160 euros pour tout le matériel. Il faut savoir qu'un seul casque neuf, ça peut aller à plus de 500 euros juste pour le casque. Juste pour le casque, ça peut aller jusqu'à plus de 500 euros. Donc, c'est pas si simple pour le plus commun des mortels de s'équiper seul. Donc, il y a des clubs qui font des locations autour de 160 euros pour eux. Et les cautions sont autour de 600 euros.
Et l'équipement, d'une façon générale, on le trouve un peu partout, facilement, dans tous les commerces de sport?
Les casques, les tenues de football américain, c'est spécialisé. Il y a beaucoup de sites qui peuvent vous vendre ça. Ouais. Et puis, si vous pouvez le louer par votre club, c'est possible. Il y a des clubs qui ne peuvent pas. Bien sûr, vous pouvez toujours l'acheter sur Internet. Il y a des plateformes qui vendent, où les joueurs se vendent des choses entre eux. Donc, des pads, des shorts, des pro combats, certaines marques que je ne citerai pas. Mais entre eux, les joueurs savent où acheter. Voilà, la base, c'est la protection. C'est donc le casque, le protège-dents. Les geopads, tout ce
et
qui
tout
est...
Et tout ça, c'est un prix quand même.
Tout ça, c'est un prix, c'est un coût. Donc c'est pour ça que quand le club le loue, les parents, ils demandent à...
Ça peut être un des désavantages aussi de ce sport.
Bien sûr, mais il y a ce qu'on appelle le passe-sport.
Oui.
Où les enfants peuvent avoir des réductions de 50-60 euros selon
les
régions.
Partout,
voilà, en Ile-de-France. Et si le club adhère à passe-sport, ça décharge déjà les
parents. Je crois savoir
que
ce n'est pas toutes les bourses quand même.
Voilà. S'ils sont éligibles à ce...
Il y a un certain nombre de conditions financières. Le passe-sport était un petit peu réduit dernièrement.
Comment ça se passe chez vous alors? Pareil?
Nous, le matériel, c'est vraiment le point le plus...
Alors, on va rappeler l'équipement. Il y a une paire de chaussures spécifiques.
Donc, de crampons.
C'est des crampons spécifiques.
Moulés, et que vous avez une chemise d'un joueur à côté, vous lui trouvez
Mais c'est bon, c'est un petit peu comme pour le foot et puis le rugby.
Les crampons, ils se trouvent partout. C'est vraiment pas un problème. Après, ce qui va être plus compliqué à trouver, donc ça va être, il faut un pantalon de pad. Et des épaulières, un casque, un protège-dents, des gants. Donc ça monte très très vite en termes de tarifs. Donc c'est vrai que nous, on propose la location, mais ça nous coûte extrêmement cher parce que c'est vrai qu'il faut renouveler le matériel tous les ans. On propose ça, nous, en fait. Notre politique, c'est vraiment d'essayer de proposer le football américain pour tous. En fait, on ne veut pas qu'il y ait des gens qui s'interdisent d'en faire parce qu'ils n'ont pas d'argent. Donc nous, on fait la location à 50 euros
c'est bien.
L'année, tout compris. Mais voilà, ça, c'est une grosse, grosse charge financière pour le club.
Oui.
Mais voilà, c'est la politique.
Et vos déplacements, vous les faites comment? Avec vos propres moyens, les voitures? C'est là que les parents sont importants?
Alors, pour les jeunes, c'est là que les parents sont très importants. Parce que sans eux, clairement, on n'y arrive pas. Et sinon, pour les sections seniors, dans la mesure du possible...
Vous n'êtes pas un pibus?
On affrète un car.
Ah, c'est bien!
Alors c'est très bien, mais ça coûte extrêmement cher aussi.
Oui, je sais bien. Mais ça soude la cohésion d'équipe.
Ça, c'est, par contre, c'est vrai que c'est important.
On chante après les victoires,
Il y a des clubs qui font payer aussi les joueurs selon le déplacement, selon le coût du déplacement. Ils demandent une participation aux joueurs.
Ah oui?
Oui.
Ah d'accord. Ah oui, Donc ça pose...
C'est un coût financier.
Ouais. Ou sinon, du covoiturage. On s'en sort aussi très bien.
Donc, au niveau des résultats, vous êtes plutôt un entraîneur satisfait? Ça va bien? Vous êtes club formateur au niveau
Alors, pour l'instant, tout se passe bien, on va dire. On est chez les Mousquetaires, en senior, on est en 3e division. Donc, c'est un championnat national. Tout se passe très bien pour l'instant. Donc, on espère que ça va continuer. Notre ADN, clairement, c'est d'être orienté vers les jeunes, donc de former des jeunes, des jeunes, parce que clairement, un club qui n'a pas de jeunes, il n'est pas viable dans le temps. Donc on est vraiment orienté jeunes, et après, on est un club historique, donc on a un gros palmarès, donc forcément, à terme, on a pour objectif de remonter le plus haut possible et puis de retrouver notre place.
Tania, on peut vivre de ce sport ou alors il faut partir, il faut s'expatrier.
Il faut s'expatrier, bah oui, mais il y a une équipe professionnelle de sport à Paris, les mousquetaires, mousquetaires. Avec Francis d'Orléans, Marc-Angelo Souma, voilà, ils sont à la tête des Paris Mousquetaires. La saison commence en juin.
Il faudra nous les faire venir.
Je demanderai à Marco si... les connais, mais je leur demanderai pourquoi pas, s'ils sont intéressés. Il n'y a pas de souci. Il y a pas mal de joueurs qui sont justement excellents, que je connais aussi personnellement, qui sont excellents. Et ils sont
Ils en vivent correctement.
Je ne peux pas dire qu'ils en vivent correctement. Non. Ils sont payés, voilà. Ils sont professionnels, ils sont payés, ils sont bons dans ce qu'ils font. Et ils se déplacent dans plusieurs clubs pour apprendre aux jeunes aussi. Les Mousquetaires ont fait des camps. Le dernier, c'était un camp LB, le premier qu'ils ont fait... sur leur camp d'entraînement et les jeunes, n'importe quel joueur pouvait assister à ce camp. J'ai assisté aussi, pas en tant que coach, mais je filmais là-bas, je prenais des photos et franchement, c'est parfait. Quoi. C'est, les joueurs sont investis, les joueurs, les Mousquetaires, les joueurs pros sont investis avec les jeunes qui ne connaissent pas et leur apprennent les bases du foot US et je trouve ça beau.
Oui. Est-ce que les matchs sont difficiles, durs? Est-ce qu'il y a un public, justement, on parlait du public chez vous qui est nombreux et comment se comporte le public?
Alors le public, il
enthousiaste, passionné, mais enfin bon.
Non, c'est plutôt un public familial. Hein. Oui. Les gens qui viennent nous voir, c'est les familles des joueurs, deux, trois badauds qui se promènent par là et qui voient et qui sont intéressés. Mais en général, c'est vraiment très très bonne ambiance. Il n'y a pas de.
Oui. L'arbitrage, ça se passe comment en football américain?
L'arbitrage. Alors, c'est
ça,
un aspect pas simple.
Ça doit pas être facile. Hein.
Ouais. Oh. Donc, tout dépend en fait du niveau auquel on joue. Mais en général, il faut que chaque club pour un match doit apporter deux arbitres. Et la Ligue fournit l'arbitre principal, l'arbitre en chef.
Sinon, c'est forfait.
Ah oui, donc on va être en arbitrage à 5.
Et ça, c'est quoi? Il y a des formations où on peut être volontaire, bénévole et dire « Allez, je vais arbitrer ce match-là ».
C'est une des obligations. Tous les ans, en fait, en début de saison, il y a des formations d'arbitrage. Il faut qu'on envoie des licenciés se former à l'arbitrage. Parce que clairement, si on n'a pas d'arbitre, on fait pas de match.
D'accord. Allez, on va marquer.
Juste sur les Mousquetaires, ils ont une équipe de supporters qui s'appelle la Red Company, qui les suivent partout. Ils font du bruit. Et franchement, ça aide au niveau du public. Ils sont omniprésents.
D'accord. Allez, on écoute une petite pause musicale. Je crois que c'est lié avec le Super Bowl, hein, ce qu'on va écouter. Donc, donc on y va. Première pause musicale.
Monster on the beat, ho, Debo, any rap nigga, he a free throw, man down, call a Amber Lambs, tell him breathe bro, nail a nigga to the cross, he walk around like Tizo, what's up with these jabroni ass niggas trying to see Compton, the industry can hate me, fuck them all and they mama, how many ops you really got, I mean it's too many options, I'm finna pass on this body, I'm John Stockton, beat your ass and hide the Bible if God watching. Sometimes you gotta pop out and show niggas. Certified boogeyman, I'm the one that up to score with him. Walk him down whole time, I know he got some hoe in him. Pole on him, extort shit, bully the flow on him. Say Drake, I hear you like I'm young. You better not ever go to cell block one. To any bitch that talk to him and they in love, just make sure you hide your little sister from him. They tell me Chubb's the only one that get your hand-me-downs. And party at the party playing with his nose now. And Baka got a weird case, why is he around? Certified lover boys, certified pedophiles. Wop, 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 dot, fuck him up. Wop, 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 I'ma do my stuff. Why you trolling like a bitch, ain't you tired? Trying to strike a chord, and it's probably A minor. They not like us, they not like us, they not like us. They not like us, they not like us, they not like us. You think the Bay gon' let you disrespect Pop, nigga? I think that Oakland show gon' be your last stop, nigga. They cold foul, I don't know why you still pretending. What is the owl? Bird niggas and bird bitches, go. The audience not dumb, shape the stories how you want. Hey Drake, they're not slow. Rabbit hole is still deep, I can go further, I promise. Ain't there something? Be rest, that's for bitching. You Malibu most wanted, ain't no law boy, you ball boy. Fetch Gatorade or something. Since 2009, I had this bitch jumping. You niggas will get a wedgie, be flipped over your boxes. Or over your foe, the other vaginal option. Pussy.
Nigga better straighten they posture. Got famous all up in content. Might write this with a doctor. Tell a pop star quit hiding. Fuck a caption, won't action. No accident, I'm hands on. He fuck around, get polished. Fucked on Wayne girl while he was in jail. That's conniving. Then get his face tatted like a bitch apologizing. I'm glad D-Rose came home, y'all didn't deserve him neither. From Alondra down to Central, nigga better not speak on Serena. And your homeboy needs subpoena. That predator moving flocks. That name gotta be registered and placed on neighborhood watch. I lean on you niggas like another line of walk. Yeah, it's all eyes on me and I'ma send it up the pot. Ay, put the road label on me, I'ma get them dropped. Ay, sweet chin music and I won't pass the ox. Ay, how many stocks do I really have in stock? Ay, 1, 2, 3, 4, 5 plus 5. Ay, devil is a lie, he a 69 god. Ay, freaky ass niggas need to stay their ass inside. Ay, roll their ass up like a fresh pack of Zon. Ay, city is back up, it's a must, we outside. Ay. They not like us, they not like us, they not like us. They not like us, they not like us, they not like us. Once upon a time, all of us was in chains. Homies still doubled down, calling us some slaves. Atlanta was the mecca, building railroads and trains. Bear with me for a second, let me put y'all on game. The settlers was using town folk to make them richer. Fast forward 2024, you got the same agenda. You run to Atlanta when you need a check balance. Let me break it down for you, this the real nigga challenge. You caught Future when you didn't see the club. Hey, what? Lil Baby help you get your lingo up. What? 21, get your first street cred. Thug makes you feel like you a slime in your head. Hey, what? Quavo said you can be from Northside. What? 2 Chainz say you good, but he lied. You run to Atlanta when you need a few dollars. No, you're not a colleague, you a fucking colonizer. The family matter and the truth of the matter. Here was God's plan to show y'all the liar. He a fan, he a fan, he a fan. He a fan, he a fan, he a freaky ass nigga, he a 69 god. Freaky ass nigga, he a 69 god. Hey, 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 run for your life. Hey, 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 run for your life. Freaky ass nigga, he a 69 god. Freaky ass nigga, he a 69 god. Hey, 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 run for your life. Hey, 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 run for
let
your life.
Let me hear you say O-V-Ho.
O-V-Ho.
Say O-V-Ho.
O-V-Ho.
Then step this way. Step that way. Then step this way. Step that way. Are you my friend? Are we locked in? Then step this way. Step that way. Then step this way. Step that way.
Voilà, donc toujours sur le football américain, je m'y suis simplement pour tous les amoureux du MMA. Ils devaient avoir leur rendez-vous mensuel et puis malheureusement, notre ami Benoît est malade, donc il ne pourra pas assurer son rendez-vous ce mois-ci. On le retrouvera donc le 10 mars, le mois prochain. C'était la finale du Super Bowl hier. Bon, le résultat, donc on va quand même le rappeler.
Vous allez rappeler. Extraordinaire.
Oui, c'est-à-dire, je vais vous laisser rappeler parce que justement, ça vous plaît. Allez-y. Les Philadelphia Eagles qui se sont imposés devant les Kansas City Chiefs.
Exactement.
Donc 40 à 22, c'est énorme.
C'est énorme. Ouais. C'est énorme. Pour moi, ils ont basé toute leur stratégie.
C'est
sur
deuxième titre de champion hein,
bien sûr,
qu'ils
bien
ont
sûr,
gagné.
Bien
hein. bien ils bien ont empêché, je crois, les Kansas de gagner 3 fois de suite.
Oui. 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 Ils ont cassé un certain nombre de codes et de barrières, tout comme ceux qui ont le maillot de coloré qui jouent au Super
Alors,
Bowl.
Il y avait une soirée au Grand Rex sur laquelle nous étions invités, mais enfin, on ne peut pas être partout. Hein, ça s'est passé comment? C'était une belle ambiance, une belle fête?
C'était une belle ambiance. Il y avait des cheerleaders qui étaient aussi très pro, très souriants, très sympas, très physiques. Il y avait des musiciens aussi aux couleurs des Chiefs et des Eagles. Il y avait des présentateurs aussi avec les maillots. Enfin, tout était bien préparé. Il y avait du beau monde là-bas. Des gens...
Et comment vous l'avez trouvé cette finale? Parce que c'est vrai que c'est devenu une tradition, c'est devenu une institution maintenant. Hein. La finale du Super Bowl, il y a des cafés, des restaurants, des établissements qui organisent justement leur soirée autour de cet événement.
Bah, normalement, chaque club, il y a beaucoup de clubs qui organisent la rencontre de leurs joueurs justement lors du Super Bowl. C'est l'occasion de rencontrer le lien entre les aînés, les seniors, les juniors.
Et est-ce que ça attire du monde, justement? Est-ce que ça attire de futurs pratiquants? Certains viennent comme ça, voient cette finale du Super Bowl, sont invités, puis se disent, après tout, pourquoi pas?
Oui, pourquoi pas? Enfin, je veux dire, c'est l'occasion de discuter avec les joueurs qui sont en place sur le terrain. C'est aussi l'occasion d'avoir un mentor, quelque part, de trouver quelqu'un qui pourra vous guider, vous donner des conseils. Tout joueur qui veut performer et tenter d'augmenter son IQ football. Donc, le fait de regarder des matchs C'est parfait, c'est, oui. C'est exactement
bon,
ce qu'il faut faire.
La fête était belle au Grand Rex hier.
Moi, je suis une grande fête des Eagles depuis très très longtemps. Du coup, j'étais aux anges, je suis toujours, je ne suis pas redescendue de mon nuage.
Très bien.
Duncan ? Moi, clairement...
Plus mitigé.
Il n'y a aucune des deux équipes qui me fait vibrer. Donc,
mais ça, c'est le coach. Hein, qui est là. C'est-à-dire, c'est le coach qui prend un peu de recul, un peu d'auteur.
Ces dernières années, on avait été habitué à un peu plus de suspense pendant le Super Bowl. Bon, là, clairement, il n'y a eu aucun suspense.
Oui, parce qu'il y a eu des années, je crois, il y a eu des prolongations. Hein.
Ouais, c'est ça. Ouais, il y avait des matchs incroyables. Mm-hmm. Là, ce n'était pas du tout le cas. Après, bon, est-ce que les Eagles. Alors, le grand débat, c'est est-ce que les Eagles ont été vraiment incroyables ou est-ce que, au contraire, c'est les Chiefs qui ont complètement déjoué ? Moi, j'ai tendance à penser que c'est surtout les Chiefs qui n'ont pas été au rendez-vous du tout.
Oui.
Mais bon, ça n'empêche pas que les Eagles sont quand même une équipe incroyable et surtout qui est une équipe très très jeune. Et donc je pense qu'on va les revoir là dans l'avenir, la saison prochaine, ils seront encore là.
Et vous, comment vous avez vécu cette finale du Super Bowl ? Chez vous, tranquille, vous êtes, vous voulez pas être dérangé, pas de commentaires ? Parce qu'il y a des clubs qui organisent, je l'ai dit, même
on fait un événement. Bon, oui. Cette année, on ne l'a pas fait. Moi, cette année, c'était plutôt tranquille, dans le cadre familial.
Et oui, parce
proche,
que vous êtes le coach, il faut aussi analyser. Ouais. Hein. On va être tranquille des fois.
Mais oui, non, là, c'était plutôt très calme. Ouais. Pas de grosse fiesta du tout. D'ailleurs, j'étais pas au Grand Rex du coup.
Oui.
Et tout à l'heure, vous parliez des matchs hein, de foot américain en France. À Paris notamment, enfin, Île-de-France, c'était un public familial. Je me demandais, est-ce que c'est un héritage américain, cette culture où ça se partage en famille, ou est-ce que c'est aussi un peu plus typiquement français ? Est-ce que...
Alors, j'ai jamais vu de match aux États-Unis, mais ouais, je sais qu'aux États-Unis, pour moi, c'est vraiment un autre monde. Parce que je sais que, par exemple, dans les high school, chaque match, il y a quasiment toute la ville qui se déplace pour aller voir le match. Nous, on n'est pas du tout dans ce cas-là.
C'est le sport roi, là-bas. Avec le basket et le baseball, c'est le sport roi. Hein.
Mm-hmm.
C'est les trois sports qui dominent. Hein.
Donc nous, c'est beaucoup plus confidentiel.
Oui.
Mais après, en général, c'est très familial. Hein. C'est, chaque joueur appelle ses copains, ses amis, sa famille. Ouais.
Puis, justement, ça tombe bien parce qu'il y a eu des matchs, Vanessa, à Charletti. Pas très loin d'ici, au stade Charletti, là où joue le Paris FC maintenant, il y a eu des matchs de foot américain. Hein.
C'était les finales de championnat élite. Ouais.
Et aussi, je crois, au stade d'Evry-Bondoufle, stade aussi bien connu. Il y a eu des matchs. Alors, d'abord, sous quelle couleur vous jouez ? Quelles sont vos couleurs ?
Les mousquetaires. Ouais. Nous, on est bleu, navy et jaune.
Bleu, navy et jaune, ça a toujours été les couleurs ?
Ça a toujours été les couleurs de... Oui, ça fait une trentaine d'années que c'est ces couleurs-là, oui.
Pourquoi ? C'est lié à la ville, non ? C'est lié à quoi ? Non ?
Non, même pas, en fait. On les a choisis à l'époque. Ça a été décidé, en fait, sur un vote. Donc chacun choisissait. Ça a été une délibération. Et donc, à cette époque-là, je pense que c'était l'équipe universitaire de Michigan qui était
Populaire. L'avantage, c'est que personne n'a les mêmes couleurs. Parce que des fois, dans le foot, il y a les mêmes couleurs. On est obligé de changer les maillots quand on reçoit les adversaires. Ça arrive aussi ?
Non, parce qu'en fait, quand on joue à l'extérieur au foot américain, on est obligé de jouer en blanc.
D'accord.
C'est une obligation.
D'accord.
Donc, il faut toujours un jeu de maillot blanc et ensuite ses couleurs.
D'accord, ok. Ça, c'est une obligation. Oui. D'accord, jouer en blanc. Et d'où ça vient, ces noms ? Les corsaires, les météores.
Alors, les équipes, historiquement, elles ont beaucoup changé de nom. Hein. Les corsaires, avant, ils s'appelaient les voyageurs.
Mais toutes les équipes de foot US ont un nom.
Ouais. C'est une identité, quand même.
Oui, c'est ça.
Et c'est assez typique à la France, parce que j'ai l'impression que dans les autres pays européens, ils prennent plus des noms américains. Nous, en France, on aime bien prendre des noms bien français.
Ouais,
Les 89ers.
On est fiers de notre langue quand même.
Moi, j'ai interviewé des présidents de clubs justement pour poser cette question.
Oui.
Et ils prennent le nom comme une identité, en
fait.
Oui,
bien sûr.
Une identité, bien sûr. Une sorte de respect derrière lequel tout le monde se rallie et le club se rallie derrière une identité. Ouais. Un club, c'est une représentation d'identité.
Donc, vous, les mousquetaires, ça.
Ça pique.
Ouais, c'est ça.
Exactement. Oui.
Ouais. Mm-hmm. Non, mais c'est vrai que c'est des noms. Les météores, les castors, c'est ça. Et c'est des. Quelles sont les actions, justement, que la Ligue veut faire pour promotionner votre sport, vous qui êtes dans ses responsabilités ?
Au niveau de la Ligue, en fait, ce qu'on veut faire, c'est éviter que les clubs meurent. Oui, en fait, non, c'est à partir ça, du moment, oui. À partir du moment où...
On en parlait, la difficulté hein, voilà, à venir année, à nos émissions parce qu'il manque du monde. Quoi.
Voilà, chaque année, il y a des clubs qui meurent quelque part parce qu'il n'y a pas assez de licenciés. Et chaque année, on doit reconstruire des équipes. Ça veut dire que quand vous avez en début d'année des U20 qui arrivent ou des U17 qui arrivent, des fois, vous n'en avez que deux. Vous ne pouvez pas construire une équipe à deux. Donc, on leur laisse quelques temps pour pouvoir s'inscrire à 9, à 11. Et des fois, il y a des ententes qui sont organisées pour que tout le monde puisse jouer.
Oui, c'est ça.
Mais ce n'est pas simple de tout organiser.
C'est peut-être ça l'avenir aussi, tout... c'est les ententes. Bien comme sûr, ça, entre l'avenir, les différentes c'est villes les jeunes. Ou les villages, ça se fait aussi.
Bien sûr, bien sûr. C'est vrai que c'est simple pour personne de pouvoir se déplacer, jouer, acheter un matériel, tout à un coût, tout à une organisation. Et même le joueur, dans sa vie personnelle, il faut qu'il se débatte avec ce qu'il a à faire. Il travaille pas, il y a l'école, il y a le bac, et on est en plein dedans.
Est-ce qu'il y a des sports-études pour le foot américain, justement?
Oui, il y avait le Pôle France, mais bon, ça va...
Oui, il y a un Pôle France, c'est-à-dire que, on se prépare...
Il y en a deux, mais là, cette année, je pense que... Alors, il y en a un à Amiens, le Pôle France d'Amiens, et l'autre, je ne me rappelle plus
Pessac.
Tout de suite.
À Pessac, c'est pas de Bordeaux,
Bordeaux,
ça.
Oui.
Bordeaux, c'est Bordeaux, ouais, Pessac. Et je pense que ça prend fin.
Ça prend forme.
Non, justement, ça va prendre fin, je pense.
Ah d'accord. Donc ça veut dire pourquoi on a du mal à avoir de.
C'est pas si simple. Après, ce sont des décisions de fédération.
Oui, bien sûr. On avait interviewé d'ailleurs un ancien président de fédération, Jacques Accombray, qui avait été un grand champion d'athlétisme. On a eu l'occasion de le rencontrer au Fair Play, et il était devenu. À travers un petit peu, je crois, c'est son fils, président de la Fédération française de foot américain, à un certain moment. Ouais.
Là, cette année, c'est Frédéric Paquet qui a repris les rênes parce qu'il a déjà été président de la Fédération française de football américain il y a plusieurs années. Il est parti dans le sud et là, il est revenu, il reprend les rênes, il va changer certaines choses.
C'est-à-dire qu'est-ce qu'il va changer?
Mais en fait, par exemple, au niveau du pôle, ça va changer. Au niveau de l'équipe de France, ça va changer aussi. Excusez-moi. Il y a tout un nombre de choses qui vont être annoncées prochainement.
D'accord. Justement, le haut niveau, c'est un des problèmes. L'équipe de France, elle est inexistante sur toutes les grandes compétitions.
Alors, elle l'est en ce moment. Alors, c'est vrai qu'avant, ce n'était pas du tout le cas. La France, on a été champion d'Europe, on a été champion, on a gagné les World Games.
On a été champion d'Europe de
foot américain. On a gagné les World Games. Mm-hmm. Et c'est vrai que ces dernières années, c'est un peu catastrophique. Ouais. Hein, mais bon, je sais qu'il y a eu beaucoup de soucis on revient toujours au même problème, hein, l'argent. Mm-hmm. Parce qu'en fait, il y a des joueurs, au niveau des sélections, il fallait se déplacer à l'étranger.
Ouais, et puis c'est peut-être pas un sport suffisamment médiatisé en France, donc il n'y a pas de gens qui vont
On a demandé aux joueurs de participer financièrement aux déplacements, donc il y en a beaucoup qui y sont pas allés. Enfin, donc c'est une phase un peu compliquée pour les équipes de France, là, mais j'ai bon espoir, parce qu'on a quand même un vivier de joueurs en France qui est juste incroyable.
Mais ils sont obligés de s'expatrier.
Ou alors ils vont
jouer. Alors je crois que c'était Richard Tardis qu'on connaissait bien, qui
avait joué
qui est parti. Il est parti aux US, bien.
C'est ça.
Et commentait les matchs en plus.
Mais la chance qu'on a, c'est qu'on a maintenant une équipe professionnelle.
Exact. Les Mousquetaires.
Les Mousquetaires de Paris.
De Paris.
D'accord.
Eux, justement.
On en parlait,
De créer un groupe avec un maximum de Français, parce qu'ils ont une obligation de prendre un nombre de joueurs locaux minimum. Mm-hmm. Et ça permet aussi de développer les talents qu'on a en France et puis de les garder chez nous.
Oui. Et comment ça se passe? Il y a des compétitions, il y a des championnats d'Europe, du monde, des Coupes du Monde, des Coupes d'Europe
Au niveau amateur
même au niveau professionnel après.
Au niveau professionnel, il y a l'ELF. L'European League of Football, donc là c'est là où il y a l'équipe des Mousquetaires de Paris. Mm-hmm. Donc là c'est principalement des équipes allemandes, autrichiennes qui sont en lice. Après, au niveau amateur, on a les championnats de chaque pays. Donc en France, on a le championnat élite et puis les meilleurs du championnat élite.
Qui est le champion de France? Parce que j'ai vu, vous avez été champion de France. Hein.
Cette fois.
Ah oui, en préparant l'émission, je l'ai vu. Ouais.
Le champion de France actuel, c'est les Black Panthers de
Toulon.
Exactement,
Tonon, j'allais en parler.
Qui du coup vont jouer cette année la Coupe d'Europe, la CEFL. Et il se passe des choses quand même en Europe, surtout en Allemagne et en Autriche.
C'est des sports où le foot US est important, je veux dire, sur le plan européen.
Et l'Autriche, très important.
L'Autriche, c'est plus le ski, mais enfin...
Il y a des gens qui expliquent que c'est parce qu'il y a eu des bases américaines pendant très longtemps dans ce pays.
Ça peut arriver,
Ils n'ont pas vraiment le rugby comme nous, on peut avoir aussi.
Oui. Les Allemands, le rugby, puis l'Autriche, le rugby, c'est...
Donc oui, c'est beaucoup pas plus développé que, hein. Ouais. Que chez nous, clairement.
Mmh. D'accord.
Donc
okay.
C'est là que beaucoup de Français vont, d'ailleurs.
Et il y a d'autres pays en Europe?
Oui, non, après, quasiment tous les pays jouent au football
exemple,
américain. L'Italie, il y a de très bonnes équipes en Italie, en Espagne... Dans les pays de l'Est aussi, ça commence vraiment à être pas mal, en Pologne.
En plus, c'est vrai que dans le Sud, il y a peut-être moins de problèmes de météo, il y a peut-être moins de reports de matchs, parce que ça peut être aussi un problème pour vous.
Oui, ça, bah, surtout avec l'année qu'on a passée, il n'a pas arrêté de pleuvoir. Ouais.
Cette saison, il y a beaucoup de parcs fermés. Hein.
Oui. Mais sinon, qu'est-ce qui décide du report des matchs, les arbitres? Parce que, bon, on est bien, avec les équipements, on peut quand même...
En général, c'est la mairie. On a des arrêtés de fermeture de terrain... Mmh. Ou alors les arbitres qui, le jour du match, disent bah non, c'est pas pratique.
Et sur le plan international, bon, ce sont les Américains. Il y a, je crois, aussi quelques équipes canadiennes.
Le Canada, le Mexique, le Japon aussi.
Ah,
qui très
oui,
le
Japon.
Le Japon, c'est le sud-américain.
Ça joue très bien. Le dopage, justement, parce qu'on dit que c'est un sport qui abîme. Les contacts, tout ça, je parle au niveau. C'est vrai, il y a eu des problèmes. On a même parlé à un moment des campagnes de dopage des footballeurs US américains.
En France, en tout cas, pas ma connaissance. Après,
oui,
aux États-Unis, clairement.
Oui, je parlais en France, moi. Je parlais aux USA.
Ah oui, aux USA, c'est super présent. Ah bon, enfin, j'imagine même pas qu'il n'y ait pas de dopage. Ça me paraît impossible.
Oui, parce que les chocs sont tellement violents. Les carrières, elles durent longtemps, elles sont courtes.
Non, elles sont très courtes. Ouais. J'avais vu un truc où je crois qu'il disait que l'espérance de vie d'un joueur de NFL, ça doit être, c'est pas plus de 50 ans. Quoi.
Brady. Oui. Non, mais.
Brady, il va aller loin.
Oui. Bah oui, c'est des icônes. Hein. Ouais. Donc, sinon, au niveau de vos saisons, comment ça se passe? Vous avez des compétitions importantes? En dehors des championnats, naturellement, est-ce qu'il y a des tournois importants? Est-ce qu'il peut y avoir des matchs, des jumelages et autres?
Alors oui, de toute façon, pour chaque section, il va y avoir le championnat dans lequel l'équipe est engagée. Donc il y a la phase de championnat qui se passe, après qualification ou non pour les phases finales. Et puis ensuite...
Il n'y a pas des tournois de fin de saison, des actions un petit peu atypiques pour justement valoriser
ce qu'on a fait depuis assez récemment au Mousquetaire, c'est qu'en fait la section flag, on l'envoie faire un tournoi international en fin de saison. Donc on a fait un tournoi là au Danemark l'année dernière, si je me trompe pas, et donc on essaye là au niveau du flag, on essaye vraiment de faire un effort et de mettre le paquet pour développer les sections, parce que il y en a besoin, et puis que c'est un sport qui est olympique.
Oui, bien sûr. Et puis, comment ça se passe avec les autres disciplines sportives sur Châtenay? Comment on vous regarde?
Alors, sur Châtenay, on n'a absolument aucun problème, parce que le terrain sur lequel on évolue, il ne sert que au football américain.
D'accord.
Le seul problème qu'on a, c'est qu'on n'a pas de poteau. Mais non, sinon, avec les autres associations, il n'y a absolument aucun problème. Ça se passe plutôt bien. Il n'y a aucune animosité ou autre.
Vous êtes sous l'égide d'une association Omnisport? Non, complètement indépendant?
C'est complètement indépendant.
Et les financements, tous les ans, les subventions, c'est compliqué,
ou
c'est à peu près les mêmes?
C'est compliqué. Après, on sait de toute façon qu'on passera après le foot, le rugby, le handball, tous les sports majeurs en France.
Surtout qu'à Châtenay, c'est quand même, ça bouge bien. En matière de sport.
En matière de sport, Alors après, bon, ça ne nous empêche pas qu'on persévère. Hein. Mais on a surtout un gros travail qui est fait sur la communication les réseaux et dans tout ce qui est recherche de sponsors. En fait, on sait que notre salut ne viendra pas des subventions. Donc on essaye de trouver par nous-mêmes des sponsors.
Et justement, quand vous allez à la recherche des sponsors, quand vous tapez aux portes, quelle est leur action? Est-ce que ça fait un petit peu peur, le foot US, ou est-ce qu'ils ne connaissent pas, ils sont curieux ou...
En général, ils sont très curieux. Oui, non, ça ne fait pas peur du tout.
Rêve américain, ça peut... Non.
Après, ils savent très bien que c'est pas le football américain qui va leur apporter une visibilité énorme. Mais en général, une fois qu'ils voient un peu qui on est, le fonctionnement qu'on a, que c'est un esprit très famille, qu'ils viennent voir des matchs, ça leur donne envie, en fait. Et puis, c'est comme ça qu'on arrive à avoir quelques sponsors et puis des équipes qui nous aident.
On recherche la visibilité.
Oui,
en fait,
alors justement.
Sponsor que j'ai vu, s'il n'y a pas de visibilité.
Oui, alors justement. Ça fonctionne pas. Est-ce qu'il y a des actions concrètes, notamment au niveau des collèges et des lycées? Est-ce que, je sais pas, il peut y avoir des cours d'initiation?
Ce sont les clubs qui se déplacent.
De profs de gym ou de qui viennent, oui.
Bien sûr, ce sont les clubs. C'est à l'initiative des clubs hein, de se déplacer dans les écoles de leur quartier, de leur arrondissement, de leur ville.
Des fois c'est compliqué avec les enseignants, mais enfin ça c'est une autre paire de manches.
Les enseignants ne font pas de football américain.
Ouais.
Hein. Non, pour recruter des jeunes, les jeunes sont en pleine croissance et c'est justement le moment de faire un sport qui les développe physiquement et psychologiquement.
Oui, c'est important ça aussi,
bien
la
sûr.
Croissance
bien sûr.
Pour un jeune.
Bien sûr, donc il faut faire attention à leur développement aussi à ce niveau-là. Il y en a qui veulent devenir, on va dire, des malabars parce qu'ils veulent impressionner les gens. Par exemple, le football américain, ça ne sert pas qu'à ça. Ça sert aussi à se développer dans la tête. Hein.
Oui, et puis vous l'avez dit, surtout un sport qui a aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de valeur.
Bien sûr, bien sûr.
Contrairement
bien sûr.
À ce qu'on
c'est
peut
c'est un sport militaire
penser.
Qui a des règles
oui.
Et sans règles, tout est laissé en friche en fait. Hein.
Oui, il y a beaucoup d'expulsions. Les arbitres sont souvent contestés. On parlait d'arbitrage tout à l'heure.
Alors les arbitres, moi qui suis sur les sidelines d'Île-de-France, j'entends beaucoup de noms d'oiseaux. Hein.
Ah quand même,
jamais
même au foot-US alors qu'on dit que c'est calme, c'est tranquille.
Le trash talk, c'est une institution aussi. Hein. Aux États-Unis, on a le droit de célébrer. Ici, en France, les célébrations, c'est, vous êtes, le TD peut être annulé pour célébration. Donc nous, on dit à nos jeunes, en U20, où je suis en tout cas, on leur dit pas de célébration. Et pourtant, ils sont contents, ils ont envie de célébrer. Pour l'instant, ce n'est pas permis.
D'accord.
Et c'est dur de former des arbitres parce que ça n'intéresse pas forcément beaucoup de gens. Moi, je ne le ferai pas parce que je fais déjà plein de choses à côté de toute façon. Mais il nous faut des arbitres aussi sur toute l'île de France. Et on forme des arbitres.
Ouais,
et
ouais.
Il y a des clubs qui payent la formation à leurs arbitres. Ouais, hein, si vous voulez être arbitre, il est possible de que ce soit gratuit pour la personne.
Et vous, Duncan, vos actions, est-ce que vous avez des actions caritatives? Vous intervenez pour des actions caritatives?
Alors déjà, on intervient dans les écoles de la ville
pour faire
des initiations, des choses comme ça.
Effectivement, c'est vous qui vous déplacez.
Oui, c'est ça. Ouais. On se déplace avec des coachs, on met en place des initiations, on parle du foot américain, on leur explique, on leur fait découvrir en fait. Donc ça permet déjà de faire connaître. Après, il y a toute une dimension, parce qu'au Mousquetaire, c'est vrai qu'on est très famille. Alors, on dit souvent qu'on forme des athlètes, mais on forme aussi des citoyens. Fait, on ne se limite pas qu'au foot américain. On dit souvent que chez nous, le foot américain, c'est 50% en fait de l'association. On est aussi très, très investi sur la réussite de nos jeunes, que ce soit au niveau personnel ou professionnel. Donc, on essaie de mettre en place des aides aux devoirs, des tas de choses ou des moyens de leur permettre de trouver des emplois, des choses comme ça.
Ah bon, quand même?
Ouais. Ah
ouais. C'est bien ça. On va rappeler votre site internet. Si certains veulent venir vous rejoindre, c'est encore possible. Ils écoutent cette émission.
On recrute toute l'année.
Châtenay, c'est pas très loin. Allez, on y va.
On recrute toute l'année.
D'accord.
Toute l'année.
Le prix de la licence, la cotisation, pour vous aussi?
Alors, la licence, pour les sections jeunes, on va être à 200 euros.
Oui, donc c'est à peu près,
Plus 50 euros pour la location du matériel. Pour les seniors, on est à 250 euros. Et 50 euros de location du matériel. On recrute toute l'année.
Oui, d'accord.
Il n'y a aucun problème. Toute l'année, vous pouvez nous rejoindre, venir participer aux entraînements. C'est avec grand plaisir. Donc on est au stade Jean Longuet à Châtenay-Malabry.
C'est ça.
Pour la Ligue Île-de-France, c'est pareil. Hein, chacun peut se rapprocher de son club. Il y a des clubs un peu partout en Île-de-France. Il suffit d'aller sur le site de la Ligue, de la L2FA, et de trouver le club le plus proche de chez vous. Il y a tout ce qu'il faut pour vous indiquer les endroits.
D'accord. Allez, on va marquer une deuxième pause musicale. Ça va vous permettre un peu de récupérer, Tania, avec ta canne de tout. Hein.
Voilà. Bien, mais...
Et puis, on marque la deuxième pause musicale. Il y aura ensuite le point foot. Et puis, il y aura le journal des sports, fait exceptionnellement par Vanessa en cette émission du lundi soir. On y va à la musique avant.
Some ice, but you'll be heavy in my mind. Can you get the heck out? honey, rest now. Got me bummed out. You, so you, baby, baby, baby. I've been on my empty mind since. I should've kept from losing the best in me. I worry that I wasted the best in me. Oh, yeah, baby, you don't care. So now I'm trying to be a nuisance, it's just urgent. Trying to make some little change, got me a war in my mind. Gotta let go and wait, can't keep what's holding me. Choose the right, but it will break up in front of me. All the while, I wave my arm, I feel it a smile. I still wanna try, still believe in good days. Always inside, good that they've been in my mind. Told me I'm on my fears, my limitations, I disappear if you let me. Feeling like Jericho, feeling like Joe. When he lost his shit, gotta hold my own, my cross to bear a long night. Ooh, way to dip, way to kill the food. No, you like that shit, can't groove it, baby, baby. Heavy on my empty mind, shit. I gotta keep from losing the rest of me. Still worried that I wasted the best in me on you, baby. It's urgent. Tryna make some little change. Got me a war in my mind. Gotta let go and wait. Can't keep what's holding me. Choose the right, but it will break up in front of me. Gotta get right, tryna free my mind before the end of the world. I don't miss no ex, I don't miss no text. I choose not to respond. I don't regret, just pretend shit never happened. Half of us laying waste of our youth, it's in the present. Half of us chasing fountains of youth, and it's in the present now.
Voilà, et cette fois-ci, on va enchaîner avec l'autre ballon, celui du soccer, avec notre ami Stéphane Dezenclos du quotidien du sport, comme chaque lundi. Bonsoir Stéphane.
Bonsoir Philippe.
Ouais.
Bonsoir
alors, tout le monde. Oui, alors Stéphane, on parlait d'une hiérarchie concernant la Coupe de France la semaine dernière. Eh bien, mine de rien, la hiérarchie, elle a été quand même un petit peu bousculée dans ces huitièmes de finale.
Ah ouais, ouais, pas mal même. Il y a eu quelques... Il y a eu surtout Dakar quoi, qui s'est imposé à Lille. C'est quand même c'est vraiment ça. Celui-là, on ne l'a pas vu venir. Hein.
Oui.
Et puis après, bien sûr, oui, le gros exploit de Saint-Brieuc qui a battu Nice, en plus avec un scénario complètement fou. Quoi. Mais c'est vrai que le Dunkerque-Lille, là, on ne l'a pas senti venir. Quoi.
Oui, c'est vrai que Lille, c'était l'équipe qui avait le vent en poupe. C'était une mauvaise semaine pour eux. Hein. Mais en tout cas, Dunkerque qui va effectivement gagner à Lille, on va rappeler, un partout et puis victoire 5-4 au tir au but. On a eu aussi Guingamp, une belle équipe de Ligue 2 qui est allée gagner à Toulouse 2-0. On l'a dit, donc Saint-Brieuc qui a fait l'exploit en battant Nice 2-1. Donc là aussi, hein, pour Nice, c'est fini. Plus de Coupe de France, plus de Ligue Europa, tout pour le championnat. Match de Ligue 1 qui a vu la victoire de Angers à Strasbourg 3-1. Et puis Brest qui est allé gagner à 3, ça c'est moins de surprise, 2-1. Et puis à noter que Reims a quand même peiné, hein, les Rémois, 0-0, seulement 3-2 au tir au but devant Bourgoin-Jallieu. Et puis sinon, nette victoire de Cannes devant Dives. Cabourg 5-3, et puis le Paris Saint-Germain qui a assuré tranquillement en battant donc le Mans 2-0.
Ouais, tout à fait. Bah ouais, y a eu des surprises. Bon, je crois que on peut se féliciter du fait que Lille soit directement en huitième de finale, parce que je crois que là, ils ont un sacré problème physique. Un peu, je pense qu'ils ont un problème physique et qui est tout à fait compréhensible, hein, parce qu'ils n'ont pas, même si Bruno Genesio, je trouve, ils ont quand même un effectif assez bon. Il a donc fait tourner, mais bon, quand même, il y a certains joueurs qui peinent, et puis d'autres comme le Benjamin André, par exemple, qui était là en coupe, hein, mais qui a manqué un peu ces derniers temps aussi. Donc voilà quoi. Donc je pense que c'est un coup d'arrêt. C'est le foot qui n'est pas tellement tout le temps, je trouve, logique. Parce qu'on,
c'est pour ça qu'on l'aime, Stéphane.
ouais, mais il y a quand même aussi des fois des... Alors, c'est pas un coup de gueule, mais il y a quand même aussi des choses qu'on aime moins. Par exemple, moi, j'avoue que la gestion et la saison de Nice, je suis pas du tout fan. Ils sont quatrième, ils vont peut-être aller en Ligue des Champions. Mais
troisième même, maintenant. Ouais, même
troisième, ouais. J'espère surtout pas qu'ils vont aller en Ligue des Champions, hein, parce que si c'est pour dès qu'il y aura deux blessés ou trois blessés, les laisser au repos plus que prévu, pas les reposer, tout ça pour favoriser le championnat et puis rien faire comme a fait Francaise en Coupe de France, d'abord en Coupe d'Europe et puis ensuite en Coupe de France, hein, parce qu'il lui manquait quand même beaucoup de cadres importants. Et qui aurait notamment permis de, je pense, mieux gérer cette fin de match à Saint-Brieuc, quoi. Et puis d'un coup, derrière, ils avaient fait le même coup avec juste avant de battre Marseille. Oui. Ils n'avaient pas été bons. Ils avaient même été, je crois, battus à l'extérieur ou vraiment complètement affligeants en Coupe d'Europe. Et puis, du coup, tous les cadres étaient au repos et ils ont fait un super match le dimanche, donc c'est pas... Moi, j'aime pas cette gestion, ouais, ça fait penser un peu à l'ancienne.
Alors, quand même, bon, il restera 4 clubs de Ligue 1, 2 clubs de Ligue 2, 2 National 2. On va rappeler donc les affiches, ça sera Cannes-Guingamp et Angers-Reims, hein, ça sera le 25 février, et puis Brest-Dunkerque, un beau match, hein, et puis Saint-Brieuc-Paris-Saint-Germain, donc le 26 février, pour clore donc ces quarts de finale. Donc on peut penser que les clubs de Ligue 1, on peut retrouver effectivement 3 sur 4 donc en demi-finale.
Ouais, tout à fait. Bon, on n'est pas 25, quoi. C'est après la Ligue des Champions. Oui. Normalement, Brest, c'est une équipe sérieuse. Mais bon, Brest, c'est pas à l'abri contre...
Ah oui, Dunkerque, c'est une belle équipe.
Contre Dunkerque, qui est une belle équipe. Et puis surtout, Brest, ils ont, c'est pareil, hein, ils n'ont pas non plus un bon, même si pour l'instant, on va arriver aussi dans une période, je pense, même si genre, quand on vit aujourd'hui que là, c'est vrai que c'est une équipe qui est en grande forme et tout, machin. Bon, je ne suis pas. Ça reste à voir physiquement. Il y a encore. D'ici là, ils vont disputer 3 matchs, ouais. 3 matchs.
Oui, 3 matchs, et puis leurs 2 matchs de Coupe d'Europe, oui.
Ouais, 2 matchs contre le PSG et puis un match de championnat. Et après ce match de Coupe de France, donc je sais pas s'ils vont arriver moi je mettrais bien une petite pièce sur Dunkerque
c'est dans le domaine du possible en plus ça peut arriver au tir au but donc tout est possible. Allez, on en vient à la 21e journée du championnat. J'allais dire que excepté Nice, c'est pratiquement le statu quo, hein. On va rappeler la victoire de Brest à Nantes 2-0, Paris qui une nouvelle fois a cartonné face à Monaco 4-0, victoire de Nice, justement, Francaise devant ses anciens donc joueurs, avec Nice s'impose devant Lens 2-0, victoire du Havre, importante, hein, le Havre, qui a gagné à Lille 2-1, ce qui prouve que la semaine n'a pas été vraiment bonne pour les Lillois, et que Lille marque effectivement un petit coup d'arrêt. Rennes, par contre, va beaucoup mieux, depuis Habib Bey, victoire à Saint-Etienne 2-0, nette victoire de Lyon devant Reims 4-0, Strasbourg qui bat Montpellier 2-0, nul entre Auxerre et Toulouse 2-2, et puis Marseille, donc qui, logiquement, va gagner à Angers 2-0. Donc toujours 10 points d'avance pour le PSG, en tête avec 53 devant Marseille, deuxième 43. Troisième, on l'a dit, Nice et Monaco avec 37 points, mais un goal average favorable pour les Niçois, plus 15 contre plus 9 pour Monaco. Cinquième, Lille, 35 points. Et puis en bas de tableau, 16e Saint-Etienne, 18 points. 17e, Le Havre, aussi 18. Et 19e, donc Montpellier, 15 points. Donc, voilà, ça se resserre un petit peu en bas.
Ouais, ouais, ça se resserre et ça se resserre, mais c'est jamais été très, très…
Non, entre les trois, je parle, hein, parce qu'il y a un petit trou pour aller titiller le 15e.
Ouais, mais Montpellier a quand même fait un sacré coup d'arrêt, parce qu'ils font deux défaites de suite, dans des matchs quand même… Montpellier, c'est Lens, ils ont perdu contre Lens, c'est ça, la semaine dernière.
Oui.
Et là, ils perdent à Strasbourg. Donc,
Oui.
Et ils sont, de toute façon, on l'avait dit, je crois qu'on en avait parlé la semaine dernière, ils se sont quand même énormément affaiblis pendant le mercato. Hein. On ne peut
plus,
pas tout avoir.
En plus,
hein.
Oui. En plus, oui.
Donc, ils sont énormément affaiblis. Et puis, autant, moi, je trouvais que c'était une équipe qui ressemblait pas du tout à des relégables. Autant là, je commence franchement à m'inquiéter quand on voit la prestation de Montpellier à Strasbourg. Je pense que Strasbourg aurait pu gagner avec plus de buts, aurait pu gagner plus largement. Et c'est assez un peu inquiétant, quoi. Deux défaites de suite là, après avoir eu un bon passage. Hein, je crois qu'ils avaient.
Oui, ça allait un petit peu mieux. Et puis on y avait cru. Ouais, et puis voilà.
Voilà. Et donc c'est très bien, mais le départ de Tamari, par exemple, particulièrement, je trouve que c'est ça va être très très préjudiciable. Alors après, Nicolas, il saura à quoi s'en tenir. Hein. C'est assez chaud. Moi ça me choque en tout cas. Puis Saint-Étienne aussi, c'est un peu pareil. Saint-Étienne, ils n'ont pas particulièrement vendu, quoi. Ils ne se sont pas tellement affaiblis, mais ils ne se sont pas trop renforcés, quoi. Alors qu'on s'attendait quand même à ce qu'un nouveau propriétaire mette pas 50 millions, hein. Contrairement à Rennes qui a mis 80 millions dans le mercato pour changer son équipe. Donc, c'est vrai que Habib Bey fait du bon boulot, mais c'est vrai aussi que ils ont quand même changé complètement leur équipe, quoi. À la fois avec des départs qui font du bien. Genre, je pense par exemple à Minguiri, qui en plus fait du bien à tout le monde, puisque c'est un départ gagnant-gagnant, puisque je pense qu'il profite autant à Rennes, où il était en stagnation totale, qu'à Marseille, où il a commencé fort. Et puis quelques arrivées, notamment par exemple Brice Samba, essentiellement dans le but, quoi. Et puis aussi, comme. Rapport avec Montpellier, Tamari, l'attaquant jordanien de Montpellier, qui est un très 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 bon joueur, par exemple, entre autres choses. Donc ça va, je pense que ça va faire du bien, quoi. Donc et je pense que Santa Maria était parti avant que Bey arrive à Rennes, à Nice. Je suis pas sûr qu'il soit parti si Bey était arrivé plus tôt.
Allez, on parle de la Ligue 2. En tout cas, c'est sûr que ça va être compliqué pour Montpellier. Ça fait quelques années quand même que Montpellier, ils frôlent un petit peu la correctionnelle, hein, à travers leur classement. Allez, Ligue 2, comme promis, donc 22e journée. Là aussi, ça reste toujours très serré. Le Paris FC a battu Pau 3-1. Tous les leaders ont gagné, hein. Lorient a battu Amiens 3-1. Metz a battu Clermont 3-1. Donc, c'était le score de la soirée. Victoire de Guingamp à Ajaccio 3-0. Et puis le Restart qui va faire nul à Grenoble 0-0. Ce soir, il y a Caen contre Dunkerque à 20h45. Donc pour l'instant, pas de changement parmi les équipes de tête. Lorient en tête avec 46 points. Devant le Paris FC, deuxième 43. Troisième Metz 41. Quatrième Guingamp 38 points. Et il y a ensuite Dunkerque et Annecy avec 36 points. Mais un goal average légèrement supérieur pour Dunkerque. Plus 5 contre plus 2 pour Annecy. Et en bas de tableau, donc 13e, Clermont et l'AC Ajaccio, hein, avec 24 points. 15e, Rodez et le Restart, 23 points. 17e, Martigues, 18 points. Et 18e, Caen, 15 points. Martigues et Caen, c'est très, très, très mal engagé. Pour le reste, tout est possible encore, Stéphane.
Ah, pour le barrage. C'est possible partout. Hein.
Oui.
C'est possible partout. Et ça y est, j'ai un peu identifié. On parlait ensemble de, tu sais, on a toujours parlé de cette équipe qui revient un peu derrière à la surprise générale, au moins pour être dans le top 5. Et je sens bien 3, moi, par exemple. Les stacks va bien, va très très bien, les stacks.
Malgré un très mauvais début. Hein.
Très très mauvais début. Je ne sais pas, je sais même pas combien là ils ont de points, s'ils sont très loin de la cinquième place. Ouais. Mais en tout cas, ils vont bien. Ils ont même fait un très bon match de Coupe de France contre Brest, hein, je crois. Oui, c'est ça, où ils perdent un match à but quasiment dans les arrêts de jeu avant d'aller au pénalty. Un but très, très, très beau but, hein. Je ne vais pas dire chanceux, mais en tout cas un très beau but de Brest. Et ça ne s'est pas passé loin. Donc, je pense qu'ils font des très bonnes performances. Et moi, je dis attention à 3 qui pourrait revenir dans le.
Oui, qui peut aller jouer. Qui peut aller jouer. Les pré-barrages, non, quand même pas, si.
Ah, les pré-barrages. Moi, je les vois bien. Je n'ai pas le classement là, mais je les vois bien arriver à remonter dans les 5. Hein. Mm-hmm. Si vous regardez, il y a 10 journées, je pense qu'ils ont des équipes qui sont 7e, 8e, ils ont repris beaucoup de points. Hein, dans les 5, c'est pas très, très stable. Quoi, donc, on va voir comment ça. Dans les 3, ça sera compliqué.
Je pense, mais bon. Mm-hmm. Allez, National, 20e journée. Le Paris Atlético 13 a fait donc nul à Sochaux 0-0. Versailles a enfin gagné, renoué avec la victoire. Ils ont battu Aubagne 2-0. À noter la défaite de Nancy, le leader devant Villefranche-en-Beaujolais 2-0. Par contre, la victoire d'Orléans à Concarneau 2-1. Alors, ça ne change pas grand-chose. En tête, Nancy avec 36 points. Devant Boulogne-sur-Mer, deuxième 33 et troisième Orléans 32. Et en milieu de tableau, par contre, c'est QRM et Paris 13 Atlético avec 23 points. Versailles est 15e avec 19 points, donc il y a un petit trou. 16e Nîmes, 16 points. Et 17e Châteauroux, 14 points. Ça va mieux, comme on le disait la semaine dernière, pour le Paris 13 Atlético. Versailles, c'est ric-rac. Hein.
Ouais, ils ont gagné, c'est déjà ça.
Oui, c'est bien.
Alors, le Paris 13 Atlético, ce qui est un petit peu peut-être embêtant, si on regarde, c'est effectivement, ça va beaucoup mieux. Ils perdent quasiment plus, je crois.
Non, mais
ils
ne
gagnent
tout.
Pas beaucoup non plus. Hein. Ils ne gagnent plus non plus beaucoup. Hein. Ils font beaucoup de matchs, lui. Ils avancent tout doucement par des petits résultats comme ça. Mm-hmm. Il faudrait quand même... une ou deux victoires pour redonner un petit bol d'air, hein, parce qu'ils ne doivent pas non plus être très loin de la zone de relégation, mais bon, on va voir.
Il n'y a que 4 points d'écart entre eux puis Versailles quand même, hein, s'ils veulent éviter la descente.
Ouais, donc ça va être compliqué jusqu'au bout aussi, hein, puis en haut aussi, parce que Boulogne, ils ont le même nombre de matchs que Nancy, où ils ont un match, ils n'ont pas un match en retard, ils l'ont joué leur match en retard, ils avaient un match en retard.
Oui, non, mais il y a un match de décalage à chaque fois, vu qu'il y a une équipe qui n'est pas partie.
Mais dans l'ensemble, ils ont quand même donc un match de moins.
Oui, voilà. Donc, je pense que Nancy, ça se jouera peut-être plus entre Boulogne-sur-Mer et Orléans pour aller titiller donc les barrages. Allez, la Coupe de France était aussi au programme des féminines ce week-end, et là aussi, il y avait un Le Mans-PSG. Net victoire du PSG 4-0, net victoire aussi de Saint-Etienne à Lille 3-0, le Paris FC a battu Dijon 2-0 et le Havre s'est imposé devant Toulouse 2-1, ce qui fait que le 9 mars, en demi-finale, eh bien, on aura un match entre le Havre et le PFC, et l'autre demi-finale opposera Saint-Etienne au PSG, donc on va tout droit, logiquement, vers une finale 100% parisienne.
Ah ouais, voilà, tout à fait, c'est exactement ce qui se profile, quoi. Comme on l'a dit déjà la semaine dernière, et comme attendu. Maintenant, après, bon, il y en a déjà eu, hein, des exemples où on avait des demi-finales comme ça, on disait la finale elle est d'avance, et puis en fait on va se retrouver avec le Havre Saint-Etienne en finale. C'est tout à fait possible, hein. on sait pas, les deux équipes jouent à domicile en plus, je crois.
Oui, surtout si on arrive au tir au but, quoi, tout est possible, hein, on le sait, au tir au but.
Mais bon, particulièrement, je crois que Saint-Etienne est vraiment une équipe de bas de tableau et a du mal déjà à lutter pour son maintien. Donc, je pense que ça va être compliqué pour eux de s'opposer au Paris Saint-Germain. Mais bon, après, ils sont huitièmes, Saint-Etienne. Ouais. Donc, pourquoi pas, le Havre est dixième. Ouais, c'est vrai qu'ils ne sont pas favoris, mais ils ont l'avantage de jouer chez elles.
Très bien. Stéphane, merci en tout cas. Hein. Et puis, semaine importante de Coupe d'Europe. Hein. Donc, on débrief tout ça la semaine prochaine. Hein.
Ouais, on a du mal un peu à s'emballer. Hein. C'est vrai que c'est pas la, la, on sent pas la même atmosphère que si on avait demain peut-être pas un Real Madrid, mais si on avait demain ne serait-ce qu'un Dortmund PSG ou un même PSG, on sera un peu tous excités. Ouais. Alors que là, c'est Brest.
Ah, mais attention, parce que le tour suivant, c'est Barcelone ou Liverpool.
Ouais, là, on sera excités.
Très bien. Allez, belle soirée, Stéphane.
Allez,
à la semaine prochaine.
Merci, Stéphane. À tout le monde.
Voilà. Allez, maintenant, eh bien, on va parler de l'actu omnisport hors football américain et hors soccer avec Vanessa. On commence naturellement par la défaite du 15 de France qui laisse énormément de regrets.
On parle plus dur parce que le score, hein, 26-25, il peut y avoir des regrets. Puis, il y a eu beaucoup d'occasions manquées. Et puis, c'est une défaite un petit peu qui est quand même assez incompréhensible parce qu'on les attendait supérieurs aux Anglais. Et puis finalement, ça n'a pas été le cas.
Ils étaient supérieurs dans le jeu.
Mais à la fin, les Anglais les ont.
Trop de ballons gâchés. Voilà. C'est incroyable d'ailleurs. Hein. C'est incroyable. Trop d'erreurs. Et on en avait un petit peu perdu l'habitude dans le 15 de France. Hein. Ah ouais, on a eu des matchs comme ça dans le passé, mais là, on avait perdu l'habitude. Enfin bon, l'Angleterre, donc, qui avait une revanche à prendre et qui s'impose, donc, 26-25.
C'est ça, donc, les autres résultats de ce tournoi des Six Nations, l'Italie bat le Pays de Galles 22-15, tandis que l'Irlande bat l'Écosse 32-18. Et donc, la France est deuxième derrière l'Irlande. Et devant donc l'Écosse, l'Italie est quatrième, cinquième, l'Italie cinquième, pardon,
et
le Pays de Galles sixième. J'ai pas.
Il n'y a pas les points, il n'a pas donné les points, Alexandre. Il va se faire tirer l'oreille, c'est pas grave.
Désolé. Ouais. Et puis donc en basket, de meilleures nouvelles, puisqu'en Euroleague, il y a eu deux matchs cette semaine. Paris a gagné contre le Bologne hier, 83-77. Ils ont perdu contre l'Olympiakos, le champion d'Europe, 90-73. En Betclic Elite, encore des bonnes nouvelles pour nos clubs franciliens, puisque Paris s'impose contre Lyon-Villeurbanne hier. Excusez-moi, c'était le match d'hier pour Lyon, 111-96. Et puis Nanterre s'impose de justesse face à Dijon. Ces victoires du Paris Basketball les propulsent à la première place à égalité avec Cholet, tandis que les Nanterrois sont 12e.
Oui.
On passe au handball.
Et je crois savoir qu'en Coupe d'Europe, ils sont 7e. Oui. Ils sont 7e.
C'est l'anniversaire de l'Adidas Arena aussi.
C'était aussi
un match assez particulier.
Mais ils sont 7e en Coupe d'Europe, oui.
7e en Coupe d'Europe, exactement.
Donc handball.
Donc on jouait ce week-end la 12e journée de Ligue des Champions féminine. Et donc, Brest-Bretagne a perdu contre Esbjerg, un club danois, 36-27, tandis que Metz, lui, s'est imposé contre NFH, un autre club danois, 30-22. Au classement, les Mulsines sont premières du groupe A et Brest-Bretagne est quatrième du groupe B. En division 1, donc, défaite par contre
chez
du
les
Paris.
Femmes, hein. Chez les femmes, parce que les hommes ont pas repris encore le handball.
Exactement, j'allais le dire à la fin.
Après les championnats du monde.
Et donc, en division 1, défaite de Paris 92-29-22 contre Stella Saint-Maur, donc un match francilien. Les Parisiennes, elles pointent à la 8e place du classement. Et comme vous le disiez, Philippe, la Star League chez les hommes reprendra à partir du week-end prochain. En volée, victoire de Paris contre Nice 3-1 pour le compte de la 20e journée de championnat. En défaite, ça ne va pas faire plaisir à notre invité Duncan. Le plaisir en basson, malheureusement, a perdu contre Montpellier 3-1. Et le club des Hauts-de-Seine est toujours dernier au classement, tandis que les Parisiens sont, eux, à la 8e place. Chez les femmes, nouvelle victoire de Levallois Paris, qui est quand même assez habitué aux victoires. Et ils ont gagné 3-0 contre Chamalières. Et le club de Levallois Paris est 4e. On passe à l'athlétisme. Hier, on y était, Philippe, à ce meeting indoor.
On en reparlera plus largement la semaine prochaine.
Voilà, mais juste quelques résultats. Oui. 6 mois après les Jeux de Paris 2024, les meilleurs athlètes du monde étaient de retour dans la capitale française. Et donc, 2 victoires françaises sur l'épreuve du 60 mètres et hommes, avec un record, on va en parler. Willem, donc Bélossian et Juste Kouaou Maté, qui sont ex aequo, premier ex aequo. Ah ouais, c'était assez incroyable de voir ça. Devant le Suisse Jason Joseph. Et puis une autre, le chrono c'est donc 7 minutes 52. Et puis l'autre victoire donc de notre tricolore.
Non, ça peut Gemina... pas être 7 minutes, 7 secondes.
7 secondes 52.
Ça peut pas être 7 minutes pour le.
Excusez-moi, je me suis embrouillée. Donc 7 secondes 52. Et donc autre victoire de la tricolore Gemina Joseph en 7-23 sur le 60 mètres.
C'est bien 10 secondes, à 60 mètres.
Oui, il n'y a pas de problème. Donc ski alpin, surprise, puisque donc Marco Odermatt. Est vaincu par un autre Suisse, Franjo Van Almen, qui termine donc premier. Notre ami Marco Dermatt n'est que cinquième. Il devance un Autrichien qui s'appelle... excusez-moi, je parlais donc de Franjo Van Almen qui devance un Autrichien, Vincent Krishmar, et un autre Suisse, décidément, troisième, Alexis Monet. Et le meilleur français, Nils Allègre, est dixième.
Oui, c'est un zéro pointé pour l'instant pour la délégation française.
C'est un zéro pointé, mais
en
prenant en compte qu'il y a beaucoup de blessés.
Oui, mais on espère qu'ils vont se rattraper peut-être le week-end prochain des chances de médaille, avec Noël, peut-être.
Et puis Philippe, si je vous dis le Tour du Monde en 90
jours. Oui. C'est
Violette,
la plus jeune femme qui a fait le Tour du Monde. 25 ans.
23 ans.
23
ans, Violette
d'Orange.
23
ans, c'est encore mieux. Je voulais vieillir, moi.
Elle devance Hélène MacArthur, qui avait fait ce Vendée Globe à 24 ans.
Oui.
Et même d'autres finalistes du Vendée Globe, même hommes.
Ouais.
Et donc, elle devient la
plus
jeune concurrente à franchir la ligne d'arrivée.
Ouais.
Elle est arrivée donc dimanche au Sable d'Olonne, après un peu moins de... Donc en 90 jours. Mmh. Et puis, elle termine 25e. Mais surtout, ce qui a frappé chez cette finaliste du Vendée Globe, c'est sa popularité. Elle a réussi à emmener tout le monde, jeune et moins jeune.
Quel bel exploit.
Ah ouais, et puis sa fraîcheur et puis son authenticité aussi. Et puis juste un petit mot sur le budget des sports dont on parlait.
Ça y est, définitivement, on le savait, on en a parlé la semaine dernière. Donc là, on va vous donner les chiffres définitifs.
Voilà, donc les chiffres définitifs. Donc jeudi 6 février, puisque c'était le dernier...
Oui, c'était le vote.
C'était le vote, donc. Au lendemain donc, de la motion de censure déposée par la France Insoumise à l'Assemblée nationale et à la suite du recours de l'article 49.3 par le Premier ministre François Bayrou, au total, on aura donc un budget de 593 millions d'euros contre 775 millions d'euros en 2024. Et c'est le plus bas depuis 2021, où on avait 432 millions d'euros. On en avait déjà parlé.
L'après-jeu, oui.
On ne va pas trop développer, mais,
non, mais bon, voilà,
pour l'héritage, c'est un peu... Mais il y a eu
chiffres.
Moins que prévu.
Ouais.
Suite à la mobilisation donc, des acteurs du sport, et on en reparlera longuement.
Régulièrement,
toute l'année,
voilà. Et puis, après le journal de sport, il y avait deux coups de cœur que tu voulais donner.
J'avais deux coups de cœur que je voulais donner. Donc.
Une minute. Ouais.
Alors, donc, Jean-Denis Walter... qu'on a été voir donc son exposition
qu'on a reçu il y a quelques semaines, photographe bien connu
tout à
de
fait.
L'équipe dans le passé,
directeur photo et ancien rédacteur en chef de l'équipe magazine. On a été voir donc son exposition mardi dernier, et donc grand coup de cœur pour ses œuvres photographiques. Quelques petits exemples. Roger Federer au lendemain de sa victoire de l'Open d'Australie en 2018, sa 20e victoire. Il est là dans cette maison, et puis aussi une photographie brésilienne, The Beautiful Game, et puis Calacucha, ça c'est plus en Corse. Voilà quelques petits coups de cœur quand on a été le voir. Et donc vous pouvez aller sur le site jean-denis-walter.fr si vous désirez faire l'acquisition de ces magnifiques œuvres photographiques.
Ouais.
Puis mon autre coup de cœur, c'est Gabriela Papadakis, qui patine pour la première fois avec une femme. Donc, c'était jeudi 6 février.
Elle a cassé les codes.
Voilà, dans la prestigieuse tournée suisse Art on Ice, elle a cassé les codes. Mais c'est aussi un message. Évidemment, les institutions sportives, elles mettent plus de temps à assimiler ça. Mais c'est le début. Voilà.
Ouais. Merci Vanessa. Puis on ira, on a chez Jean-Baptiste Walter, chez Jean-Denis Walter, rencontré la veuve de Gérard Rouillet. Donc une pensée pour celui qui a été un grand serviteur du football, notamment du côté du Paris Saint-Germain et de Liverpool. Merci d'avoir été nos invités. Merci à Jason d'avoir mis cette émission une nouvelle fois en tant que technique, en tant que manmaître. Et puis on vous laisse avec Au bout du foot. On se retrouve la semaine prochaine. Merci à toutes et à tous pour votre immense fidélité. Belle soirée.
Merci.
Merci.
Bonne soirée. Obi Trice, real name, no gimmicks. Two trailer park girls go round the outside, round the outside, round the outside. Two trailer park girls go round the outside, round the outside, round the outside. Guess who's back? Back again. Shady's back. Well, if you want shady, this is what I'll give you. A little bit of weed mixed with some hard liquor. Some vodka that'll jumpstart my heart quicker than a shock when I get shocked at the hospital.
Paris FM.